Moi, je crois beaucoup que les choses, elles viennent de l'intérieur et d'une certaine manière de nulle part ailleurs que de l'intérieur.
Je veux me réjouir de ce que je fais parce que je suis là pour donner la joie et ça doit partir de moi. Je dois être dans la joie moi-même.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux.
C'est très mystérieux ce qui se tisse entre un instrument et un humain. Tous les musiciens, toutes les musiciennes passées par ce micro y vont de leurs mots pour essayer de partager cette histoire, ces histoires à chaque fois singulières. Parfois, il y a de l'enfance, parfois même il y a de l'ennui, parfois il est question d'endurance, de souffrance, de répétition, de redécouverte. Souvent, il est question de rencontre et encore plus souvent, il est question d'intimité. Qu'on nous parle de piano, de voix, de flûte traversière, de batterie, les musiciennes et les musiciens finissent toujours par évoquer quelque chose de très profond qui les lie avec ces objets de vibration et de son. Votre dernier album, Dom la Nena, semble tout entier consacré à nous faire parvenir une infime partie de ce qui vous lie à votre violoncelle, affectueusement baptisé Léon, comme un petit garçon que j'adore. L'album porte le nom de l'instrument que vous portez et qui vous porte peut-être depuis tant d'années. Bonsoir Dom la Nena.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue. Merci. On est absolument ravis de vous recevoir pour votre nouveau disque. À chaque fois, on a été ravis de vous recevoir. Et voilà, à chaque fois c'est une joie.
Merci.
Répétez. On va commencer avec un extrait. C'est un grand extrait, un grand souffle pour démarrer l'émission puisque c'est Universo.
Thank you.
Un premier extrait de ce disque qui s'appelle Léon, donc, et le morceau s'appelle Universo. Peut-être on peut revenir sur ce que je disais en introduction d'Homme la Nena, sur la relation avec l'instrument. On fait la supputation que Léon, c'est le petit nom que vous lui donnez.
Oui.
Ça vient d'où ?
Ça vient d'il y a plus de 10 ans maintenant, en tournée. Finalement, c'est vrai qu'il prend une vraie place, même physique.
C'est le cas de le dire, là, il est dans le studio.
Il a son fauteuil dans le tourbus, dans l'avion. Donc, il fallait bien lui trouver un nom et on l'a baptisé comme ça, un petit peu pour rigoler. Et puis, c'est resté. Et c'est vrai que, appeler le disque comme ça et rendre public son petit nom, c'est vraiment juste un petit clin d'œil. Mais ça, c'est aussi pour donner la dimension de. Du fait que c'est vraiment quelqu'un en fait pour moi. C'est-à-dire que je l'ai depuis maintenant plus de 20 ans.
Oui, c'est le même quelqu'un.
Ouais. C'est une relation très très longue et puis j'ai traversé tellement de choses avec ce violoncelle et c'est vrai qu'il y a quelques années par accident, il y a eu un petit accident de tournée qui a fait qu'il y a eu qu'il s'est cassé. Bon, heureusement, c'était juste décoratif et réparable. Mais le fait de le voir cassé, ça m'a poignardé, quoi. J'ai réalisé à ce moment-là à quel point j'étais attachée à ce violoncelle-là et puis du coup, j'ai dû pendant quelques temps jouer sur un autre violoncelle le temps qu'il soit réparé et je m'aperçois qu'en fait. On développe en tant qu'instrumentiste une relation tellement forte avec son instrument que le fait de jouer d'un autre violoncelle, pour moi, c'est pas du tout le même travail. C'est pas du tout. Enfin, je me sentais. J'avais plus du tout de repères. J'étais un peu complètement déboussolée.
Alors, on imagine que pas de repères pour une musicienne comme vous, avec une formation classique comme vous. En fait, c'est pas de repères, mais ça va.
Oui, bien sûr, vous êtes une technicienne. Je jouais pas n'importe quoi, évidemment. J'ai quand même fait des concerts avec.
Mais du coup, c'est la sensation, la finesse de jeu.
Oui, et puis on sait comment il réagit. Je sais comment il réagit à chaque petite chose que je fais, à chaque petit mouvement. En fait, c'est tellement subtil le jeu d'un instrument que ça dépend d'un millimètre près de comment on met le doigt. Et chaque instrument, enfin, de cet aspect technique, chaque instrument réagit différemment. Et puis, il y a aussi comment réussir à transmettre l'émotion. On l'apprivoise, on arrive à... Finalement, c'est un peu presque comme notre voix, en fait. Et tout d'un coup, de devoir changer de corde vocale ou d'éléments de communication, enfin, en tout cas, pour faire transmettre les émotions, c'était un rapport vraiment très différent. Et voilà, en fait, c'est vrai que ma première passion, c'était le violoncelle. Enfant, très petite, c'était vraiment évident pour moi que je voulais être violoncelliste. Et ensuite, vers mes 20 ans, j'ai commencé à composer des chansons et puis du coup, je suis devenue plus chanteuse et en m'accompagnant au violoncelle. Et c'est vrai qu'avec ce disque, j'avais besoin de lui redonner la place du soliste juste passer du temps, lui et moi. Finalement, en fait, quand j'ai commencé à enregistrer le disque, la plupart des morceaux n'étaient pas du tout composés. J'avais juste des mélodies, des choses comme ça. Et puis, je l'ai vraiment construit autour de cet instrument, de ce violoncelle et puis de ce rapport qu'on a un peu tous les deux. J'ai enregistré ça chez moi, dans mon studio. Il n'y avait personne d'autre. Et voilà, c'est un disque à la fois très intime et puis pour célébrer un peu toutes ces années... De route ensemble.
Oui, il y a de l'intimité, mais il y a aussi de l'ampleur. On l'entendait quand même, ce morceau-là, Universo. Il y a des morceaux qui ont comme ça de l'espace, alors c'est peut-être aussi donné par le violoncelle et la corde. D'un seul coup, on peut, j'ai l'impression, pousser les murs quand même. Mm-hmm. Enfin, c'est une intimité qui n'est pas réduite, pas à ce sens-là. Mais je voudrais juste revenir, Dom la Nena, sur le fait que vous disiez que c'est une relation de 20 ans, mais ça fait bien plus longtemps encore que vous jouez de la musique, que vous jouez du violoncelle. Mm-hmm. Comment ça s'est passé, la rencontre, alors ? Comment est-ce que vous avez commencé à jouer sur ce violoncelle-là ?
Sur ce violoncelle-là, en fait, enfant, on commence avec des petits instruments. Enfin, j'avais
des mini Léon.
je sais même plus mon premier, si c'était un quart ou un trois quarts, je sais plus. En tout cas, quand on passe à l'entier, on appelle ça un violoncelle grand.
Et c'était celui-là, le premier entier ?
J'en ai essayé plein. Ce qui se passe, c'est que souvent les luthiers nous proposent des instruments par rapport au budget qu'on a, et puis on l'emprunte, ils nous le prêtent ou ils nous le louent pendant quelques mois pour qu'on l'essaye avant de prendre une vraie décision. Et je dois dire que c'est vrai que j'en ai essayé un paquet. Je me souviens d'avoir passé, je pense, au moins un an à essayer des instruments. Et puis en fait, j'avais une échéance, c'était mon départ au Brésil, parce que j'étais en France avec mes parents et on rentrait au Brésil. On était venus que pour 4 ans et on arrivait au bout de ces 4 ans. Et on voulait absolument repartir avec le violoncelle que je voulais garder. Et donc à la fin, vraiment, complètement, un peu par hasard, on est tombé sur un luthier qui était un peu fou d'ailleurs, où le rapport était vraiment pas simple. Et puis voilà, j'ai trouvé celui-là et
il l'avait fabriqué.
Ah non, c'est un Mirko. Non, c'est un violoncelle qui a été fabriqué, enfin qui a plus de 100 ans et mais c'est pas du tout un violoncelle qui coûte très très cher. On avait un, enfin mes parents étaient étudiants à l'époque. C'était vraiment, c'est ce qu'on appelle un violoncelle d'études en fait. Hein, mon violoncelle et d'ailleurs après en grandissant et en continuant mes études, la plupart de mes profs me demandait de changer. Il me disait non, mais il faut que tu changes. Et en fait, je me voyais pas du. Enfin, déjà, j'avais pas du tout l'argent. Enfin, voilà. Et ensuite, je me voyais pas changer de violoncelle. J'avais un rapport. Je pense aussi parce que c'était dur pour moi de repartir au Brésil,
de quitter
la France. Et c'est vrai que finalement on s'est connus juste au moment où je partais et puis je l'ai emmené avec moi au Brésil. Ça a fait comme un petit bout de cette étape de ma vie qui restait avec moi. Et ensuite je suis partie avec lui en Argentine toute seule, j'avais 13 ans. Et pareil, c'était aussi un moment où j'étais extrêmement seule et puis c'était très particulier quoi d'être à l'étranger
pour étudier
le violoncelle. Et finalement on était tous les deux quoi dans ces moments durs et je pense que en grande partie pour ça j'ai du mal à me défaire des choses donc je m'attache vraiment beaucoup aux objets et bon particulièrement à celui-là évidemment. Mais je ne me voyais pas le changer. Je trouvais ça presque comme une trahison, après tout ce qu'il m'a donné.
En tout cas, il vous permet de faire le pont et de faire plein de ponts d'un pays à l'autre, d'une musique à l'autre. On va écouter une archive d'un auteur que vous citez souvent, qui s'appelle Julio Cortázar. C'est une archive de 1976. Et lui, c'est un livre qui lui a permis de faire le pont entre deux mondes.
Ce n'est pas pour rien que j'ai passé 25 ans en France. C'est-à-dire, je crois que nous vivons, à la fin de ce siècle déjà, nous vivons une époque qu'on peut appeler, sans pédanterie, qu'on peut appeler planétaire. C'est-à-dire que le monde est vraiment très petit, comme dit le mot, vraiment très petit actuellement, même dans le sens historique. Et le fait que quelqu'un comme moi habite dans un pays qui n'est pas latino-américain me donne une optique tout à fait spéciale et différente. C'est-à-dire que tout en restant latino-américain, et ne voulant pas renoncer à ça, j'ai pu profiter, je profite de jour en jour, je m'enrichis personnellement de mon expérience européenne, de mon expérience française. Et je pense que cette confrontation de cultures très différentes, dans l'esprit d'un écrivain qui est ouvert, comme j'essaye de l'être toujours, donne finalement des résultats qui peut-être se traduisent dans mes œuvres. Je crois par exemple que j'aurais pas pu écrire un roman comme Marel si je n'avais pas habité à Paris. Marel est un pont, il y a une partie qui se passe à Paris, une partie qui se passe à Buenos Aires, mais ces deux parties sont dialectiquement unies. Il y a un pont, il y a une relation continuelle qui enrichit les deux côtés. C'est-à-dire, Buenos Aires est devenu plus riche pour moi parce que je suis à Paris, et pour moi, Paris est une ville qui évoque tout le temps pour moi des souvenirs latino-américains.
Thank you.
Un deuxième extrait de votre disque qui s'appelle Léon, et cet extrait s'appelle Temporal. Dom Lanena, on entendait donc une archive de Julio Cortázar en 1976 parler de la manière dont il a écrit des choses différentes dans sa période parisienne, qu'il a eu besoin de partir de l'Argentine pour écrire des livres et que, par exemple, Marel, qui est un livre que vous citez souvent, il n'aurait pas pu l'écrire s'il n'avait pas été finalement ailleurs. Tout à l'heure, vous disiez que ce violoncelle, ce vieux Léon, eh ben, il vous a permis aussi de faire des ponts, donc depuis le Brésil. Voilà, il y avait eu une sorte de premier voyage à Paris, puis le retour au Brésil, puis votre départ pour l'Argentine pour aller étudier. Et puis là, votre vie en France, finalement, c'est aussi ça. Mais d'abord, avant de revenir sur ces ponts, vous disiez en écoutant l'archive mêlée à votre musique que ça a été une de vos premières intentions ou de vos premières intuitions de mélanger la voix de Cortázar avec votre violoncelle au départ.
Bah oui, j'adore sa voix, enfin j'adore ses livres et j'adore sa voix. Et c'est vrai que au tout début, je pense vraiment peut-être le deuxième petit truc que j'ai composé au troisième, j'ai fait toute une série de petites
montages.
Je samplais sa voix et comme je n'osais pas chanter, je prenais sa voix et je composais des petites plages instrumentales par en dessous, donc, enfin qui l'accompagnaient quoi. Ça m'a fait très plaisir du coup de l'entendre là enfin.
Comme si c'était fait.
Ouais, comme si c'était fait exprès.
Il y a quelque chose dans le morceau qu'on entend là qui a une forme de c'était dramatique le mot qui me venait à l'esprit, mais pas au sens lourd, mais au sens de quelque chose d'important. Mmh. Comment est-ce que vous pouvez nous parler de ce morceau-là qui s'appelle Temporal ?
En fait, Temporal, ça veut dire tempête et en portugais. Et c'est vrai que ça fait partie de mes souvenirs de mon enfance au Brésil. En fait, parce qu'évidemment, il y en a beaucoup, des sortes de gros orages tropicaux et de tempêtes courtes, quoi, mais c'est quelque chose du quotidien au Brésil. Et c'est vrai qu'on j'en garde un souvenir assez, assez fort parce que ma mère avait extrêmement peur, par exemple. Et c'est vrai que ça fait vibrer. Il y a les murs de l'appartement vibraient, les fenêtres. Je me souviens que les fenêtres claquaient, les verres. Et puis, nous, on habitait tout en haut d'une sorte de colline. Et puis, ça, la quantité d'eau qui coulait. Enfin, bref, c'était quand même quelque chose de très, très impressionnant. Surtout qu'au Brésil, dès qu'il pleut un peu trop, et ben, on n'a plus d'électricité, on n'a plus de courant. Et on n'avait pas de téléphone.
Du coup, ça peut donner quelque
donc,
chose un
peu
dramatique.
Donc, du coup, on était dans le noir. Voilà. Et puis, avec ma mère qui avait très, très, très peur. Donc, c'était vraiment un peu particulier. Donc, voilà, c'était un peu... Et puis, en même temps, ça passait assez vite. Et il y avait une sorte de... La lumière, après, je me souviens de l'odeur et la lumière et l'air, l'humidité de l'air. Il y avait quelque chose que j'adorais. Il y avait quelque chose de très excitant et qui faisait peur, mais en même temps, qui était hyper, hyper agréable et assez apaisant, finalement, après. Donc,
oui, ce serait presque la musique d'après l'orage, en
oui,
fait.
Oui, oui, je pense que c'est plutôt... Ah, oui, oui,
Et comment ça se passe, du coup, vous êtes chez vous, dans votre studio, donc là en France, et vous vous mettez avec votre violoncelle, et ce sont ces sensations qui reviennent, et qui se transforment en gestes d'archer, en accord.
Non, c'est assez inconscient, c'est vrai que je ne suis pas trop... Je réfléchis pas trop en amont avant de le faire, non. J'ai une mélodie et puis je construis quelque chose et puis tout d'un coup ça me, c'est vrai que ça me rappelle un sentiment ou pas. Hein. Parfois c'est assez dur d'ailleurs de mettre des titres à des morceaux, surtout quand ils sont instrumentaux. Ça, c'était pas toujours évident parce que c'est assez subjectif. Ça peut un jour ça peut rappeler une chose, un autre jour ça peut faire penser à autre chose. Puis c'était aussi ça qui me plaisait dans l'idée de faire de la musique instrumentale, c'est qu'il y a une très très grande liberté d'imagination et chacun l'interprète un peu comme il veut, beaucoup plus qu'une chanson où il y a quand même un texte qui raconte quelque chose. Donc non, j'avoue que je laisse un peu la musique se faire un peu de façon
parfois,
inconsciente.
Vous jouez longtemps, par exemple, dans ces moments de studio. Vous pouvez passer du temps à jouer.
En fait, moi, ce que j'aime bien, ce que j'adore, c'est l'exercice d'enregistrer d'arranger, de construire et de travailler un peu le son et de créer des ambiances. J'ai peut-être une mélodie ou une ligne de basse à la base, mais en fait, je compose vraiment en enregistrant. Je fais un peu tout.
Par exemple, pour vous avoir vu plusieurs fois sur scène, est-ce que ça ressemble aussi à votre manière de construire au fur et à mesure, c'est-à-dire avec des pédales,
voilà, ouais.
enregistrer des moments,
un peu, ouais.
Même construire par exemple une première partie, jouer par-dessus, rejouer par-dessus. C'est ça, mais version studio voilà. avec des lignes voilà. sur un logiciel.
Absolument, et puis à l'infini, parce que du coup, j'ai pas.
Il y a personne.
Ouais, je peux me. Alors, voilà. Donc, dans le sens, pour répondre à ta question, je peux passer très longtemps à empiler.
Et à désempiler ?
Bah après, j'ai du mal à enlever quand même. Oui, c'est un peu le même exercice que sur scène. C'est vrai que sur scène, c'est plus épuré parce que je suis toute seule et que je fais tout en live. C'est-à-dire que je n'ai pas de choses préenregistrées. Mais je, autant sur mon projet de solo que sur Burns & Wire avec Rosemary Sandley, je construis les arrangements au fur et à mesure à l'aide de pédales de boucle. J'enregistre les arrangements et je fais ça en sur scène. Et c'est vrai qu'en studio, c'est un peu le même processus, sauf que souvent, je ne sais pas du tout où je vais. C'est ça qui est assez, que j'aime bien en fait, dans l'exercice, c'est qu'il y a un peu, dans l'idée de composer et d'enregistrer en même temps...
Une recherche, quoi.
C'est complètement expérimental. Et bon, après, il y a plein de choses que je ne garde pas, mais il y a un côté assez magique, en fait, de réussir à créer des atmosphères, à créer des ambiances et à explorer un peu les sons du violoncelle.
On va rester en studio avec la voix d'un musicien qui s'appelle Étienne Dao, qui va raconter, mais cette fois, le travail avec les autres ou avec l'autre, peut-être par exemple au moment des mix.
Je suis toujours assez ferme, mais en même temps, comme je suis musicien moi-même, je comprends la complexité du moment où on est en studio, de cette fragilité où... Ouf, tout peut partir vraiment dans le mauvais sens, comme ça, c'est facile. Moi, j'ai la chance d'avoir une vision, je sais vraiment où je vais. Le disque est fini pour moi, en fait, une fois en studio. Une fois que j'ai fait les maquettes, c'est comme si il était dans ma tête déjà, qu'il était mixé. Et donc, je n'ai qu'à suivre ce son que j'ai déjà dans la tête. C'est déjà fini pour moi. Et donc, j'essaie de m'entourer de tous les acteurs qui vont pouvoir m'accompagner dans cette espèce de fantasme que j'ai. Et cette espèce de chose qui est déjà très présente. Alors dur, je ne sais pas, j'ai eu une mauvaise expérience, très mauvaise expérience, mais c'est une expérience sur la confiance. C'est quelqu'un qui n'a pas eu confiance jusqu'au bout, et l'album a été foiré à cause de ça. Et ça, c'est une grosse souffrance pour moi. Et après, j'ai mis du temps avant de reproduire un disque. Parce que moi, je ne peux travailler que dans la confiance. Je ne sais pas travailler dans le conflit, c'est impossible. Mais pourtant, je suis très ferme, je sais ce que je veux et je ne laisse pas de possibilité à ce que les choses soient floues. Hein. Mais je trouve que d'être gentil avec les autres, de savoir créer un climat vraiment agréable dans le travail, c'est important, quoi. Je trouve que ça permet de vraiment beaucoup mieux travailler.
On entend la voix d'Étienne Dao au micro de Mathieu Conquet dans les Entretiens à voix nue qui étaient diffusés sur France Culture. L'idée d'une fermeté, mais d'une douceur, d'une certitude, d'un disque en fait fini dans sa tête quand il arrive en studio, mais où en fait tout peut partir, enfin tout peut être transformé. L'étape du mix, c'est une étape extrêmement importante. Mmh. Avec qui vous avez travaillé? Dans quel état d'esprit? Dans quel studio? Dans quel moment, Dom la Nena?
Je rejoins assez ce que dit Étienne, parce que c'est vrai que bon, j'ai la chance aussi de pouvoir. Je suis pas ingénieur du son, mais j'ai quand même, comme c'est moi qui enregistre, j'ai beaucoup de plaisir aussi disons que quand j'envoie les choses à mixer, il y a déjà une direction qui est vraiment très très définie, très claire, et j'envoie pas du tout les choses brutes où il faut tout refaire, tout faire sonner de zéro. C'est quelque chose c'est vraiment, ça fait partie du processus créatif en fait pour moi, de faire de trouver le son et trouver le, alors ça veut pas forcément dire dans la prise de son, parce que c'est vrai que
j'allais vous poser la question, vous savez très bien prendre le son par exemple?
Non, je suis assez à l'arrache.
Mais pourtant vous partez de ces prises là
ouais, en fait j'enregistre, j'ai un studio chez moi, enfin j'ai une pièce, c'est mon bureau, mon studio, là où je compose, où je répète, où je fais tout, et en fait par exemple Léon, je l'ai enregistré juste avec deux micros dans cette pièce, et j'ai besoin d'une simplicité en fait. J'ai beaucoup de mal à la contrainte d'aller en studio où déjà ça coûte hyper cher par jour, et puis t'as une limite de temps, et puis t'as le regard des autres. T'as forcément, si t'es en studio, un ingé son qui est derrière sa console. Alors ça peut être super parce que du coup, il peut avoir une vraie complicité.
Et une émulation, mais... et aussi des directions qui naissent et tout ça.
Mais comme, particulièrement sur ce disque, j'ai très souvent composé en enregistrant et puis c'était assez expérimental. Et pareil aussi pour Tempo, mon précédent album, je suis allée en studio, mais j'avais quand même pré-travailler beaucoup de choses en amont et j'ai besoin d'isolement et de solitude et de simplicité. J'ai besoin de pouvoir appuyer sur un bouton et que ça s'enregistre, et que ça sonne et ensuite...
Et que ça puisse être aussi à 11h du matin, oui. Comme éventuellement à 23h, après avoir fait quelque chose, avant exactement. D'avoir fait quelque chose.
Ouais. Mmh. Ouais, exactement. Et donc du coup... Voilà, en fait, j'ai la chance d'être équipée et d'avoir les connaissances pour ensuite retravailler beaucoup sur ordinateur le son et trouver des filtres, des choses. Enfin, aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez dingue la quantité de choses qu'on peut avoir à portée de main en tant que musicien.
J'allais dire, en tant que musicienne, en vous écoutant parler, je pense beaucoup à des femmes, plutôt des jeunes femmes, qui ont trouvé une très grande indépendance de travail dans la simplicité technique que leur offrent aujourd'hui les outils, qui réussissent à avoir leur chambre à soi, leur chambre à elles. chez elle, au milieu de vie avec lesquelles il faut composer, un quotidien avec lequel il faut composer. Et je suis assez surprise de voir que la légèreté technique aujourd'hui, les possibilités font que, je sais pas, à ce micro, j'ai vu défiler plein de chanteuses, plein de musiciennes qui ont acquis une grande liberté de travail aussi, Dom La Nena. Il me semble que ça parle aussi d'une époque, quoi.
Ouais, absolument. Mais c'est vrai que c'est fou, en fait. Si on écoute bien prise par prise, on doit entendre ma fille hurler. au loin ou mon voisin parce que c'est vrai que c'est dans
votre vie en fait
ouais. Mais en même temps c'est un des avantages d'aujourd'hui, c'est d'avoir accès en fait assez facilement enfin il faut pouvoir investir un peu dans du matériel et puis une fois qu'on a ça, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Je suis sûre que je ferais pas la même musique en fait si je devais aller en studio parce que ce serait un processus créatif complètement différent. Et
alors quand vous finissez par aller en studio pour mixer l'album, vous travaillez avec qui et comment ça se passe?
Et là, j'y suis pas allée. J'ai envoyé, comme pour Tempo, mon précédent album, j'ai travaillé avec un Américain qui s'appelle Noah Georgeson, qui est musicien aussi et qui est producteur et qui travaille, qui fait tous les disques de David Rabanart ou de Rodrigo Amarante ou de choses très très acoustiques et
avec des signatures, ouais.
Ouais, avec un son vraiment, vraiment qu'on reconnaît tout de suite. Mais après, ça me fait marrer aussi ce que disait Dao, parce que c'est vrai que il faut. Moi, c'est pareil, je peux pas travailler dans le conflit, j'y arrive pas du tout. Mais en même temps, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Et c'est pas toujours évident de réussir à trouver. Parfois, il y a des frustrations parce que du coup, j'arrive pas à bien
me dire
parce que je trouve que chacun doit prendre la place, enfin sa place aussi, et puis essayer. Mais c'est vrai qu'avec Noah, on a fait deux disques, il a compris ce que je voulais. On a mis un certain temps sur Tempo, c'était très long, surtout que lui, il est au fin fond de la Californie, et puis moi, j'étais à Paris. Donc, il y a eu énormément d'échanges de mails, jusqu'à ce qu'il trouve, en fait, vers là où je voulais aller. Et une fois qu'il a compris, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a vraiment nos repères.
Et un langage commun. Quoi.
Ouais, c'est très plaisant.
Thank you. j'avais l'impression d'être tellement fragile que dans ce que je révélais, dans ce que j'ouvrais en moi-même par la musique, que si ça se passait pas bien en concert, après j'étais détruit, quoi. Je me disais, mais pourquoi je fais ça? C'est une forme de torture. Donc c'était pas que j'avais pas les chansons, que j'étais pas prêt, c'était juste que pour moi, jouer sur scène était tellement une épreuve que voilà, donc je continuais, j'abandonnais pas, mais c'est ça qui a pris peut-être un peu de temps. Je pense que la règle générale, c'est que si ça se passe bien pour moi, ça passe bien pour le public. Et en fait, il y a pas de règle, et je trouve que Ben Harper, c'est aussi un bon exemple de ça, parce que c'est quelqu'un qui... Il y a toujours un moment dans son concert où il joue tout seul devant 10 000 personnes, 15 000, 17 000. Et il le fait avec une autorité très naturelle. Et donc, l'attention du public s'impose tout naturellement. On n'a pas besoin de demander, d'exiger quelque chose. C'est comme si la musique simplement exige... tout seul, une attention, un silence. Et moi, j'y crois à ça. Après, bon, il y a toujours des moments où c'est moins facile, surtout en première partie, d'avoir ça, parce qu'évidemment, le public n'est pas conquis.
C'est la voix du musicien Pierce Faccini dans l'émission L'Humeur Vagabonde en 2006 au micro de Kathleen Evin sur France Inter. Pierce Faccini qui dit « Bon, au début, c'était une torture. Je sortais, je me disais pourquoi je m'inflige ça ?» et qui continuait pourtant. Vous avez eu plein d'expériences de scène très différentes, en fait, Dom La Nena. Une expérience, par exemple, là, on imagine que c'est des concerts où vous allez être solo avec votre violoncelle. Donc, c'est vraiment particulier. Il y a évidemment... toutes les dates de tournée avec Birds and Wire et Rosemary Stanley. Puis il y a eu tout aussi une période d'accompagnement, en fait. Et puis de projets divers. Je pense, par exemple, au très beau projet d'Amélie Bonin et Aurélie Charron, Radio Live, où vous êtes aussi sur scène. Tout ça, c'est hyper différent. Comment ça a évolué, votre rapport à la scène?
Disons que c'est vrai que j'ai commencé en tant qu'accompagnatrice et il y avait un côté très excitant parce que c'était aussi la première fois où je sortais de la musique classique. Donc... j'étais hyper contente et en même temps, il n'y avait pas... il y avait un enjeu assez fort parce que j'accompagnais Jane Birkin ou Étienne Dao ou Pierce. Mais en même temps, ce n'était pas moi qui étais sur le devant de la scène. Donc, il y avait quelque chose assez légère. Et puis, en tout cas, je n'avais pas beaucoup de... le trac, en fait, je me souviens à cette époque-là. Je pouvais être un peu stressée, mais j'étais plutôt confiante. Mais c'est vrai qu'à
partir... fallait tenir le job, voilà. Quoi. Voilà,
vous mais aviez... je savais, j'étais plus ou moins sur un terrain sûr. En fait, ce qui a pris du temps pour moi, effectivement, et je me reconnais dans ce que dit Pierce, c'est qu'à partir du moment où on va sur scène pour chanter ses chansons ou pour jouer sa musique, il y a une telle exposition, c'est tellement intime. Ça touche à quelque chose de, finalement, de très fragile en nous. Et c'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps aussi.
À le faire, tout simplement. C'est-à-dire même avant d'y
arriver. Alors, je me souviens de... avant que mon premier disque sorte, j'ai fait tous les trucs, les plans les plus pourris possibles, les petits cafés, les trucs pour parfois il y avait personne, mais juste pour l'exercice en fait de se mettre devant une ou deux ou 10 ou 20 ou 50 personnes pour perdre un peu l'appréhension. Et c'est vrai que ça a été assez formateur à l'époque, ça m'a un peu débloqué le tout début. Mais à partir du moment où vraiment j'ai sorti un disque, déjà ça c'était... Je pense que mon premier disque, il y avait une sorte d'insouciance où je me rendais pas trop compte que ça allait vraiment, que les gens allaient écouter. Puis quand c'est sorti, j'ai fait, ah oui, d'accord, mince.
Mais parce que c'est ça vrai parlait qu'on est... de vous, parce
bah
que
oui,
ça vous
parce
dévoilait.
Que, ouais, bah oui, c'est un peu comme presque, enfin, surtout le premier disque, il y avait un côté un peu journal intime et tout d'un coup de sentir que ça peut plaire ou ne pas plaire. À des gens, que les gens peuvent avoir un avis sur quelque chose d'aussi intime, c'est un peu étrange en fait, finalement. Et j'ai mis du temps à m'habituer. Et puis il fallait aussi que j'apprivoise ma voix. C'est vrai qu'au début, c'était vraiment assez fragile, assez contrasté avec le fait que je faisais du violoncelle depuis 20 ans presque à l'époque. Et puis je venais tout juste de commencer à chanter. J'avais jamais envisagé l'idée de chanter sur scène. Donc. avec Pierce notamment, je lui dois beaucoup, on a fait beaucoup beaucoup de dates, on s'est accompagnés l'un l'autre, on faisait des, parce qu'on a fait mon premier disque ensemble, et lui il m'a beaucoup beaucoup encouragé et ça m'a...
À chanter, vous voulez dire? Ou bah, de manière générale, de manière générale à exposer votre travail,
en fait, ouais. À chanter, oui, mais de manière générale, en fait, il a écouté mes maquettes, on était amis, je l'accompagnais, et puis il avait son studio lui aussi dans les Cévennes, et il m'a proposé de venir sans aucune pression, enfin de venir travailler chez lui, et c'est vrai que ça m'a, enfin voilà, il a vraiment été très important dans le début de quand j'ai commencé à composer et à chanter, et je suis pas sûre d'avoir. Je ne sais pas si j'aurais trouvé le courage sans ce genre de rencontre, en fait, qui permet de partager et puis de d'avoir un avis. Enfin, voilà, au début, c'est vrai qu'il m'a quand même un peu guidée. Et puis, on a fait beaucoup de concerts ensemble et j'en suis très reconnaissante parce que c'était j'étais vraiment...
Timide.
J'étais très timide, très fragile. Enfin voilà, c'était le début quoi. Donc,
et en même temps, moi je me souviens vous avoir vu sous plein de configurations différentes, dont évidemment des concerts mémorables avec Birds on Wire. Donc vous êtes dans cette formation-là en duo avec Rosemary Sandley. Et je me rappelle de vous, morte de rire sur scène.
Oui, oui, non, mais
en train
mais
de
oui,
faire
oui,
des
oui.
blagues, en train de faire de la percu sur le violoncelle, en train de faire des doubles voix, en train d'imiter des non, chats ou des fait, poules, oui, et d'avoir oui. acquis une aisance, une capacité d'être sur des formations en plus ultra acoustiques, près d'endument hyper fragile, et de trouver une intensité, de choper toute la salle. Voilà, c'est aussi acquérir quelque chose d'une force de présence de Mladena oui. qui est indéniable aujourd'hui.
Mais c'est un vrai exercice. Enfin, ça m'a pris, ça m'a pas pris 10 ans, mais ça m'a pris 1 ou 2 ans. Parce qu'en fait, après, donc au début, j'ai essayé d'avoir des musiciens. Je trouvais que j'étais finalement mieux toute seule. Et en fait, j'ai réussi après, de concert en concert, finalement, il n'y a que ça qui fait qu'on gagne en confiance et qu'on apprend, en fait, à être avec le public.
Et avec soi-même, probablement.
Et avec soi-même. J'ai pris... Enfin, aujourd'hui, je prends énormément de plaisir. Et ça a été, enfin, depuis plusieurs années, maintenant. Mais n'empêche que, parfois, je peux avoir la tremblotte sur certains concerts. Mais tout en sachant comment... Enfin voilà, je me décompose pas quoi. Je sais que.
Alors faut faire quoi pour respirer un bon coup.
Il faut respirer un bon coup et puis surtout il faut parler. En fait, ce que j'essaye justement, c'est de faire le chat, de faire la poule et d'avoir des fous rires sur scène, ça détend.
Tout le monde d'ailleurs probablement.
Ça, en fait, je trouve que l'important finalement, c'est de réussir à briser la glace et d'avoir une vraie complicité en fait avec les gens. C'est ce que j'essaye vraiment de faire quand j'y arrive pas. Pour moi, c'est un concert raté. Parce que il faut réussir à garder une écoute attentive et puis rester dans l'émotion, mais tout en
respirant tous
voilà,
ensemble.
Voilà, en fait, surtout quand on est tout seul sur scène ou quand on est deux avec Rosemary, l'important c'est de réussir à communiquer, de pas avoir quelque chose de figé, de tendu entre nous quoi. Je pense que ça fait du bien à tout le monde quand au milieu d'un concert, et d'ailleurs avec Bird ça nous a pris énormément de temps. On se souvenait l'autre jour qu'on a fait quand même des années de tournée où on parlait à peine sur scène. Alors les gens, eux, ils trouvaient ça super, ils se sentaient comme dans une sorte de tunnel musical machin, mais c'était quand même particulier quoi, de passer une heure à enchaîner les morceaux sans parler.
Mais ils sont très beaux. Tout comme là, votre dernier disque qui s'appelle Léon. Un grand merci, Dom Lanena,
d'avoir été avec nous. Merci, Marie.
Thank you.
Au son ce soir, c'était Pierre-Henri, à la réalisation Félix Levacher. Un grand merci à toute l'équipe de Par les temps qui courent. Noé Margas, Camille Petiot, Mathilde Wagman, Jeanna Léos et Marianne Chassor. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les émissions musicales que nous avons fait cette semaine sur le site de Par les temps qui courent, franceculture.fr. Vous pouvez vous abonner au podcast via l'application Radio France et pourquoi pas au compte Instagram animé par Camille Petiot. Très belle soirée à toutes et à tous sur Culture.